Bonjour Guillaume, bonjour à tous. Des tensions en Israël autour de personnalités accusées d'antisémitisme. L'actrice israélo-américaine Nathalie Portman, qui refuse de se rendre dans l'État hébreu pour ne pas être associée au Premier ministre Benjamin Netanyahou. Et puis Pascal Boniface, le directeur de l'Institut de Relations Internationales et Stratégiques, a été agressé à son arrivée à l'aéroport de Ben-Gourion à Tel Aviv le 18 avril dernier. Précision dans un instant.
Et puis à la une également, l'inscription dans la durée des grèves à la SNCF et à Air France, qui tombe pour la première fois le même jour ce mardi, les cheminots se préparent à une contestation plus longue que prévu.
10 morts et 15 blessés à Toronto. Le conducteur d'une camionnette a foncé sur une foule au Canada. La piste terroriste pour l'instant écartée par les autorités. La fin de la politique de modération salariale en Allemagne, c'est le diagnostic que fait la Banque centrale outre-Rhin. Il en sera question dans le billet économique de Jean-Marc Chardon à la fin de ce journal.
Et puis dans une quinzaine de minutes, la question du jour, Catherine, le référendum est-il une bonne solution pour régler les conflits sociaux ? On posera la question à Rémi Bourguignon, enseignant-chercheur à Paris 1.
C'est une figure intellectuelle dont les positions sur le conflit israélo-palestinien ont provoqué des tensions lors de son arrivée en Israël la semaine dernière. Pascal Boniface, le directeur de l'Institut de Relations Internationales et Stratégiques, invité par le Consulat Général de France à Jérusalem pour donner une conférence sur la géopolitique du sport. Il a été agressé à son arrivée à l'aéroport Ben-Gourion à Tel Aviv le 18 avril dernier. Crachat, insulte, Pascal Boniface dit avoir été pris à partie par une demi-douzaine de personnes en raison de ses liens avec les Arabes. Son agression filmée commence à faire le tour des réseaux sociaux, Marine Vlaovic.
Sur cette vidéo, on voit Pascal Boniface dans le hall de l'aéroport Ben-Gourion de Tel Aviv, valise à la main. En guise de comité d'accueil, il est violemment pris à partie par deux personnes qui n'hésitent pas à le bousculer et à l'insulter.
Vas-y, avance, je te dis, Boniface, fils de pute, vas-y, avance. Vas-y, passe là-bas, je te dis.
Il serait également question d'insultes racistes et de crachats. Figure intellectuelle reconnue, le directeur de l'Institut de Relations Internationales et Stratégiques est régulièrement taxé d'antisémitisme depuis la publication d'une note en 2001. Une note interne dans laquelle il conseillait au Parti Socialiste d'adopter une position en accord avec les principes universels sur le conflit israélo-palestinien. Dans un ouvrage paru il y a quelques mois, il réfute en bloc ces accusations en soutenant que critiquer l'exécutif israélien, ce n'est pas être antisémite. Si le consul général de France à Jérusalem s'est fendu d'un communiqué dénonçant une agression inadmissible, l'ambassade de France à Tel Aviv et le Quai d'Orsay sont restés silencieux.
Marine Vlaovic à Jérusalem pour RFI et France Culture. Toujours en Israël, les attaques se multiplient contre Nathalie Portman. L'actrice israélo-américaine a annoncé la semaine dernière qu'elle ne se rendrait pas dans l'État hébreu en juin prochain pour recevoir le prix Genesis, souvent présenté comme le prix Nobel juif. Nathalie Portman a dit ne pas vouloir être associée au Premier ministre Benjamin Netanyahou qui devait parler lors de cette cérémonie. Parce qu'Israël m'est cher, je dois m'opposer à la violence, à la corruption, aux inégalités et à l'abus de pouvoir, a-t-elle écrit sur son compte Instagram. Les officiels israéliens l'accusent de boycott et lui demandent de ne pas tomber du côté obscur, référence à la guerre des étoiles où Nathalie Portman a joué. Un député de la Knesset demande même la déchéance de nationalité pour l'actrice israélo-américaine. En France, à présent, le manifeste contre le nouvel antisémitisme publié dimanche dans Le Parisien continue de faire débat. Le texte, écrit par Philippe Val, l'ancien directeur notamment de Charlie Hebdo, a été signé par 300 personnalités politiques, intellectuelles. Les signataires, dont l'ancien Premier ministre Manuel Valls et l'ex-président Nicolas Sarkozy, pressent les autorités musulmanes de frapper d'obsolescence les versets du Coran qui appelleraient au meurtre et au châtiment des juifs, des chrétiens et des incroyants. Le recteur de la grande mosquée de Paris, Dalil Boubaker, parle, lui, d'un procès injuste et délirant d'antisémitisme fait aux citoyens français de confession musulmane et à l'islam de France. Berlin porte la kippa, c'est le mot d'ordre d'un rassemblement qui aura lieu demain dans la capitale allemande. À l'appel des organisations juives, les Berlinois sont appelés à marquer leur solidarité après l'agression la semaine dernière d'un jeune portant la kippa. Un acte clairement délibéré, mais qui ne semble pas lié à la sécurité nationale du Canada. Le ministre de la Sécurité publique semble écarter la piste de l'attentat après qu'un homme de 25 ans a tué 10 personnes et blessé 15 autres en fonçant sur des passants hier à Toronto au volant de sa camionnette. Ce jeune homme a été interpellé hier. Les précisions de notre correspondante Pascale Guéricola.
Le drame a eu lieu au moment de la pause déjeuner, alors que les passants profitaient d'une des premières journées du printemps sur l'avenue Yonge, une des principales artères de Toronto. Soudain, une camionnette blanche de location a foncé sur la foule, montant à plusieurs reprises sur le trottoir et fauchant des passants. Au bout d'une course folle de près de 2 km, le conducteur a immobilisé son véhicule, sévèrement endommagé. Le suspect est sorti de la camionnette, brandissant ce qui ressemblait à une arme dans une de ses mains. Un policier l'a alors approché en le tenant en joue. Il a réussi à l'immobiliser sans tirer sur lui. On sait très peu de choses sur le conducteur. Alec Minassian, 25 ans, est originaire d'une petite ville au nord de Toronto. Apparemment, il fréquentait une université, mais ne serait pas connu des services de police. Pour l'instant, le ministre canadien de l'Intérieur, Ralph Goodale, ne considère pas que ce drame constitue une menace pour la sécurité du pays. Même si l'hypothèse d'un acte terroriste ne peut pas être totalement rejetée à ce stade-ci de l'enquête, rien ne semble indiquer que le suspect aurait été associé à un mouvement organisé. Certains médias ont toutefois signalé l'existence d'une publication liée au compte Facebook d'Alec Minassian peu de temps avant la tuerie. Dans son message, le suspect faisait l'apologie du responsable d'une tuerie survenue sur un campus américain en 2014. Le responsable avait déclaré la guerre aux femmes repoussant ses avances et aux hommes qui avaient trop de succès féminin.
Au Mexique, trois étudiants en cinéma qui avaient disparu il y a 5 semaines dans l'état de Jalisco à l'ouest du pays ont été retrouvés assassinés, leur corps dissous dans de l'acide. Un nouveau record de violence a été établi au Mexique. Les meurtres ont augmenté de 20% au premier trimestre 2018. La sécurité, priorité des Mexicains avant la présidentielle du 1er juillet. On y revient dans le journal de 7h30.
Vous écoutez les matins de France Culture, c'est la suite du journal de Catherine Dutu. À chacun ses motifs, mais la grève se poursuit sur les rails et dans les airs.
La direction d'Air France prévoit d'assurer près de 75% des vols aujourd'hui, alors que les grévistes demandent toujours une augmentation de 6% de leur salaire. La direction propose, elle, un plan de 2% d'augmentation cette année, 5% les trois suivantes. Un projet d'accord pour lequel le PDG d'Air France KLM, Jean-Marc Janaillac, a mis sa démission en jeu en annonçant un référendum pour consulter l'ensemble des salariés sur le projet proposé la semaine dernière. La grève qui se poursuit par ailleurs à la SNCF. Aujourd'hui, la direction prévoit un TGV et un intercité sur 3, 2 transiliens et 2 TER sur 5. Les syndicats n'excluent pas la poursuite de leur mouvement cet été. Le PDG de la SNCF, Guillaume Pépi, a lui évoqué une érosion du mouvement. Et c'est vrai que le taux de grévistes était en baisse hier, Hakim Kasmi.
Si avec 17,4% de grévistes, on a le taux le plus bas depuis le début de la grève, les perturbations restent très importantes. 2 TGV sur 5 et 3 TER et transiliens sur 7. Une différence qui s'explique par le fait que le nombre de grévistes chez les conducteurs reste, lui, très important. Il est de 62%. Idem chez les contrôleurs, 48% et 24% chez les aiguilleurs. Des personnels qui sont indispensables pour faire rouler les trains. Ce que se garde bien de préciser Guillaume Pépi, le PDG de la SNCF, qui lui se base sur le nombre global de grévistes. Il ne compte pas par exemple les administratifs et les ingénieurs. Tout comme le fait que les autocars qui remplacent les trains annulés permet de faire baisser artificiellement le nombre de grévistes. Du coup, les syndicats n'excluent pas une prolongation du mouvement au-delà du 28 juin pendant les vacances d'été au vu de la dégradation du dialogue social entre le gouvernement et la SNCF et les partenaires sociaux. Filialisation du fret, fin du statut de cheminot pour les nouveaux entrants à la SNCF à partir de 2020, autant d'annonces que les partenaires sociaux ont découvert dans la presse la semaine dernière. Enfin, la CFDT envisage de poursuivre la SNCF en justice au tribunal de Bobigny sur le décompte du nombre de jours de grève puisque l'entreprise n'accepte pas de payer les jours de repos des salariés qui sont grévistes.
Et en ce 10e jour de grève en pointillé à la SNCF, les grévistes se préparent effectivement à un mouvement long. Ils étaient près de 200 réunis hier après-midi lors d'une assemblée générale intergare à Paris, où s'est rendu Mathieu Mondoloni.
Ils se sont succédé au micro pendant plus d'une heure.
Peu importe ton syndicat, c'est un cortège de grévistes.
Pour crier leur colère et leur détermination, mais aussi pour s'interroger sur la stratégie des syndicats qui envisagent désormais de prolonger la grève en juillet et en août. Impensable pour Anas, gréviste et délégué Sudrail à Paris.
C'est un effet d'annonce. Hein. De toute façon, si la grève elle donne pas satisfaction après 36 jours, c'est pas en ajoutant grève le jour du bal des pompiers et à l'ascension qu'on va gagner.
Cette grève partie pour durer coûte aussi aux grévistes, explique Anne. Elle est aujourd'hui retraitée de la SNCF, mais soutient le mouvement, d'autant qu'elle a vécu de nombreuses grèves.
2003, 2007, 2010, 2014.
Et qu'elle sait comment tenir financièrement.
On se serre la ceinture. et puis on mange des pâtes et puis on essaie de s'entraider.
Anne espère maintenant une nouvelle stratégie, instaurer une grève longue et reconductible à la place d'une grève perlée, un point de vue également défendu par Anas.
C'est une grève gentillette pour l'instant, c'est une grève qui paralyse 2 jours sur 5. Quand on veut faire la grève de la faim, qu'on arrête de bouffer 2 jours et qu'on mange 3 jours, et ben c'est pas une grève de la faim, c'est un régime.
Un régime qui pourrait faire perdre du poids au mouvement, c'est désormais ce que craignent ces cheminots, alors que les négociations avec le gouvernement sont dans l'impasse.
Une prime exceptionnelle pour Carlos Tavares, le PDG de PSA va toucher 1 million d'euros pour le rachat d'Opel. Le conseil de surveillance a déjà donné son feu vert. Les actionnaires du constructeur automobile devraient l'adopter ce matin lors de l'assemblée générale du groupe. Une prime exceptionnelle, inadmissible pour la CGT, compréhensible pour Force ouvrière. À Notre-Dame-des-Landes, c'est une signature très symbolique qui va se dérouler ce matin, quelques heures seulement après la fin de l'ultimatum donné par le gouvernement aux zadistes pour se régulariser. 4 agriculteurs historiques qui vivent dans le bocage depuis longtemps, qui avaient été expropriés et qui occupent illégalement leurs terres depuis plusieurs années, vont être régularisés par la préfecture. Ces agriculteurs vont signer une convention d'occupation précaire, un bail valable jusqu'à la fin de l'année. C'était il y a 5 ans exactement, en banlieue de Dhaka, au Bangladesh. Un immeuble de 8 étages abritant des ateliers de confection textile s'écroulait. 1134 morts dans l'effondrement du Rana Plaza et des centaines de personnes handicapées à vie. Ce drame a forcé l'industrie textile à réagir. Quelques semaines après, une organisation indépendante de contrôle appelée L'Accord a vu le jour. Son mandat de 5 ans se termine dans quelques semaines. Et Sébastien Farcy, notre correspondant dans la région, a pu parler avec son directeur.
Depuis 5 ans, le travail abattu par l'accord est énorme. Plus de 1600 usines inspectées, 90 000 problèmes de sécurité détectés et 84% de ces défauts corrigés. Ceci grâce aux investissements des marques occidentales et de leurs sous-traitants pour l'installation de portes à incendie ou l'amélioration du système électrique. Les problèmes qui restent concernent souvent la structure même des bâtiments, comme l'explique Rob Weiss, directeur de l'accord.
Aucun des bâtiments n'a respecté les plans des architectes. Certains ont été dessinés pour comprendre 4 étages et quand on va sur place, il y a 7 étages. Or, les colonnes et les poutres sont pour un immeuble de 4 étages. Parfois, ils doivent donc enlever des étages. Mais avant d'en arriver là, ils doivent faire des études d'ingénieurs que nous corrigeons 10 fois pour être acceptables. Ça prend donc beaucoup de temps.
Certains patrons bangladais refusent toujours ces améliorations et une centaine de ces entreprises a ainsi dû sortir de l'accord et ne peuvent donc plus traité avec les marques occidentales signataires. À partir du 1er juin, le mandat de l'accord sera renouvelé pour 3 ans, avec pour but de transférer à la fin cette mission d'inspection aux autorités locales, si les conditions le permettent.
Sébastien Farcy à New Delhi pour RFI France Culture.